Pour la chronique environnement aujourd'hui, je reçois Pierre-Étienne Drolet, qui est biologiste et coordonnateur de projet au Cobali. On sait que c'est un organisme qui veille à la protection des lacs et des cours d'eau du bassin versant de la rivière du Lièvre. Et aujourd'hui, Pierre-Étienne, tu vas nous parler du rôle des milieux humides pour la gestion de l'eau et la séquestration du carbone.
Ben oui, salut Carl.
Allô, ça va bien?
Ben oui, toi?
Oui.
Oui, ben c'est ça. Aujourd'hui, on parle des milieux humides. Fait que pas besoin d'être un grand génie pour se douter que dans les milieux humides, il va y avoir de l'eau. On s'en doute, c'est un peu le concept. Mais je sais pas si tu savais aussi que c'est des milieux qui sont remplis de carbone. Fait que on va voir ce matin un peu les deux rôles là, par rapport à l'eau puis la séquestration du carbone ce matin. Les milieux humides, ben ça joue un peu le rôle d'éponge, si on veut se représenter ça là.
Okay.
Fait que c'est comme un peu des stations de rétention d'eau qui sont dispersées sur le territoire.
Donc c'est utile.
Ben c'est utile, oui, parce que ça réduit, ben entre autres justement l'impact des crues, les coups d'eau là qu'on a de plus en plus. Ça va ralentir l'eau, puis tranquillement ça va la laisser partir finalement, comme la relarguer tranquillement par la suite. Fait que ça vient atténuer finalement les inondations ou les crues. Ça, c'est par rapport au rôle là, sur l'eau comme tel. Là.
Est-ce que c'est ça qu'on appelle un service écologique, Pierre-Étienne? C'est comme un service rendu gratuitement par les écosystèmes?
Oui, c'est en plein ça. C'est quelque chose qu'on est obligé de remplacer. En ville, on le voit, là, quand on détruit les milieux humides, on est obligé de... Ben, soit qu'on se fait inonder, puis ça coûte cher.
Faut
créer des bassins de rétention artificiels, puis ça a des coûts. Fait que c'est un service... gratuit qui est rendu par les écosystèmes. Pour ce qui est des milieux humides, exemple, un marécage qui est riverain, c'est qui est au bord d'un cours d'eau, ben lui, il va contenir justement le débordement du cours d'eau qui est en crue. Puis, à l'inverse, si on a des petits milieux humides qui sont dans des petites cuvettes, dans la forêt, des fois, t'as comme un petit,
ouais,
petit trou, une petite dépression, ben à ce moment-là, ben ça va retenir l'eau justement en forêt, ça va l'empêcher d'aller vers les cours d'eau puis de ruisseler finalement. En plus de ça, ben on peut mentionner aussi que les milieux humides, ben ça participe à la recharge de l'eau souterraine. C'est nous autres dans la région, on a pas mal de puits, les gens ça,
ouais,
ils prennent l'eau potable dans les puits, fait que ça prend aussi des milieux humides qui va aider l'eau à s'infiltrer tranquillement dans le sol.
On entend souvent parler aussi, Pierre-Étienne, du rôle des arbres dans la lutte contre les changements climatiques, mais un petit peu moins du rôle des milieux humides. Est-ce que je me trompe ou c'est pas mal ça?
Oui, ben surtout dans une région traditionnellement forestière comme la nôtre,
ouais,
on entend beaucoup parler des arbres, c'est normal. Comment on se représente ça pour le carbone? C'est que, mettons, pour une forêt donnée sur le territoire, techniquement, il y a un certain stock, si on veut, là, moyen de carbone qui est emmagasiné à long terme là, dans les arbres, finalement, dans le bois. Puis ça, ben, c'est en équilibre, si on veut. Il y a comme un équilibre entre la croissance des arbres qui séquestrent le carbone et le bois qui se décompose, qui lui, ben, il renvoie du carbone dans l'atmosphère. Fait qu'il y a comme un équilibre entre les deux, finalement. Puis, si on veut voir ça, c'est un peu comme un bain, que ce qui rentre dans l'eau du bain avec le robinet, c'est la même quantité que ce qui sort par le drain.
Mm-hmm.
Fait que t'as tout le temps la même quantité de carbone, on va dire,
okay,
à l'équilibre dans une forêt, en théorie.
Comment ça se peut?
Ben, c'est vraiment la séquestration, justement, les végétaux, eux autres, ils vont utiliser là, justement le carbone de l'atmosphère pour leur croissance, finalement. Avec le bois, c'est plein, et les végétaux sont pleins de carbone, en fin de compte, qui provient de l'atmosphère. Dans le cas des milieux humides, où je m'en vais, ben c'est que là, on a de la séquestration du carbone, surtout jouée par les tourbières.
OK.
Fait que ça, c'est des milieux humides assez particuliers. C'est, tu marches là-dedans, puis tu cales. Là, c'est comme un peu un gros Scott Towel. Là, tu t'enfonces là-dessus. Grosse éponge. Souvent, c'est de la mousse, là. Les tourbières, ce qui est intéressant, c'est qu'elles stockent annuellement plus de carbone qu'elles vont en émettre. C'est des puits de carbone. Fait que les autres, dans la comparaison avec le bain, là, c'est que la tourbière reçoit plus d'eau qu'elle en laisse sortir. Fait que la réserve, elle augmente finalement avec le temps.
et ça devient comme un réservoir de carbone accumulé et ça fait moins de carbone qui s'accumule dans l'atmosphère. Non, je comprends bien.
Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu une pompe à ouais. siphonner le carbone. Puis d'ailleurs, t'as peut-être entendu parler qu'on a retrouvé quasiment intact là, dans des tourbières, genre le corps de des hommes ou des mammouths qui sont quasiment intacts. Là,
ah oui?
On peut retrouver ça, ouais. Parce que la décomposition est super rare. Entre autres parce qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans les tourbières. Puis ça engendre de l'acide puis du méthane. Fait que c'est un milieu qui est quand même assez pauvre, un peu hostile, sauf pour des plantes spécialisées là, comme des sphènes, qui sont des sortes de mousses. Certains arbustes comme le calmiol, et du labrador aussi, qui sont dans les tourbières. Puis l'épinette noire puis le mélèze là, pour les arbres. Mm-hmm. On trouve aussi d'ailleurs des plantes carnivores là, qui vont aller chercher un surplus d'alimentation en mangeant des petits insectes, là, justement, parce que c'est des milieux pauvres. Fait que. Puis on a deux types, en fait, de tourbières là, pour les pros. Là. Celles qui sont alimentées juste par les précipitations, fait que par la pluie. Ça, c'est des tourbières qui sont ombrotrophes, qu'on appelle.
OK.
Puis d'autres qui sont un petit peu plus riches en nutriments, qui reçoivent l'apport d'un cours d'eau, un petit peu plus oxygénés aussi, qu'on dit minérotrophes. Là-dedans, tu peux retrouver comme des tas de touffes de foin, là, de graminées,
ouais, ouais, ouais.
Dans lesquelles tu peux caler aussi, d'ailleurs, où il y a de la terre noire. Là. Puis il y en a qui appellent ça, moi je trouve ça très joli, ils appellent ça des têtes de femmes. Quand je suis arrivé dans la région, il y a du monde qui appelle ça de même. Parce que, justement, ça fait comme des touffes avec ça ressemble à des cheveux, là. C'est comme des touffes de foin là, sur le bord des cours d'eau. Fait que c'est ça. Dans une tourbière, le milieu est tellement pauvre qu'il y a de la difficulté à décomposer les végétaux. Ce qui fait en sorte que d'année en année, ben, il y a comme la tourbe s'accumule. Tu peux avoir des fois plusieurs mètres de tourbe. Puis, donc, ça fait un réservoir de carbone énorme, finalement, qui s'accumule au fil du temps.
Donc, on a un bel exemple de service écologique rendu par les milieux humides et ici, la lutte contre les changements climatiques.
Yes, en plein ça.
Ben, merci beaucoup, Pierre-Étienne. Puis, on se reparle dans un mois pour une autre chronique.
Oui.
Pierre-Étienne Drolet, qui est biologiste et coordonnateur de projet au Cobali. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. À la prochaine.
Bye-bye.